Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral où on retrouve comme chaque jour un invité, un conteur ou une conteuse. Aujourd'hui, eh bien première, c'est une conteuse qu'on a le plaisir d'accueillir en direct de notre studio Fréquence Mistral. Il s'agit de Halima Hamdan. Je ne sais pas si je prononce bien, je fais des efforts.
C'est exactement ça.
C'est exactement ça. Alors bonjour, enchantée de vous recevoir ici et toujours accompagnée par Christiane Belleuil, directrice de la médiathèque. Merci Christiane de venir tous les jours.
Bonjour. C'est un plaisir Odile, bonjour.
Et pour moi c'est un grand plaisir à chaque fois de découvrir de nouvelles personnalités dans ce domaine assez particulier du conte. Et puis, eh bien, on va faire connaissance avec Halima Hamdan, conteuse et écrivaine.
Oui, c'est bien ça.
Comment ça a commencé pour vous, ce goût du conte ? Vous êtes originaire du Maroc ?
Voilà, je suis marocaine, donc j'ai beaucoup écouté de contes quand j'étais enfant, parce que chez nous, c'était la tradition. Mais j'ai découvert le conte en France. Parfois, les rencontres se font ailleurs. J'étais un peu dans l'écriture et j'ai fait la connaissance d'une femme qui s'appelait Marie Fauché. Elle nous a quittés il y a 4-5 ans, qui écrivait des contes et qui connaissait très bien Henri Gougaud. Et elle m'avait dit que ce serait peut-être intéressant pour moi de rencontrer Henri Gougaud qui allait commencer un atelier d'écriture. Sauf que lorsque je suis arrivée à l'atelier d'écriture, c'était un atelier de contes. Il y avait des gens qui racontaient, donc moi je trouvais ça assez bizarre, parce que chez nous, le conte, c'était une affaire de famille et de femmes. C'est-à-dire que les femmes racontaient le soir aux enfants et aux autres femmes. Et à l'extérieur, le conte, comme il était fait, comme je l'ai entendu dans cet atelier, pour moi, c'était vraiment un mystère. Donc je suis retournée à cet atelier plus intriguée que intéressée par le fait de raconter. Et le fait d'être retournée trois fois, à un moment donné, Henri Gougaud m'a pratiquement pressée de raconter. Il m'a dit « Oui, mais si vous revenez... » Parce que moi j'ai dit « Non, moi je suis que dans l'écriture, je ne raconte pas. » Il m'a dit « Si vous revenez à cet atelier, c'est que ça vous dit quelque chose. Donc essayez. » Et j'ai essayé de raconter un conte de ma grand-mère. Et là, il m'a dit, mais vous êtes conteuse, donc si vous voulez revenir et vraiment travailler, c'est très bien. Si vous ne voulez pas, mais de toutes les manières, vous serez toujours conteuse. Alors, il ne fallait pas trop me titiller.
Ah bon ?
Donc, je suis revenue à l'atelier, mais avec un conte que je voulais raconter. Donc, mais pour moi, c'était très intéressant dans la mesure où, quand j'ai quitté le Maroc, j'étais un peu en colère contre la société, contre ma condition de femme, parce que je m'étais mariée jeune et j'étais divorcée et puis j'étais pas bien. Donc, sous prétexte de venir préparer une thèse de doctorat à la Sorbonne, c'était aussi pour moi une manière de m'éloigner de la source. Et le conte me ramenait de manière quand même assez incroyable à la source. Parce que raconter, pour moi, je ne pouvais raconter que des choses que j'ai reçues enfant. Revenir à la source, c'est revenir aussi à la langue. Parce que moi, tout ce que j'avais reçu, c'était dans ma langue maternelle. Donc c'était renouer avec la langue maternelle. Revenir sur des souvenirs d'enfance que peut-être j'avais à un moment donné complètement mis dans un coin. Et c'était vraiment une redécouverte d'un plaisir que j'avais complètement oublié, d'histoire qui m'avait nourri mais que j'avais complètement refusé à un moment. Donc pour c'était vraiment une autre rencontre avec moi-même et avec ma langue, avec ce que je suis.
Alors, des contes de femmes pour les enfants, pour les filles, oui. J'imagine qu'on peut éduquer d'une certaine façon par le conte, on peut amener une certaine morale. Est-ce que ce n'était pas encore des contes pour enfermer la jeune femme dans ces conditions ?
C'est ne pas connaître les femmes. Parce que les femmes, chez nous, elles n'étaient pas éduquées, donc elles n'avaient pas le droit à l'instruction, mais on ne pouvait pas du tout couper les ailes du rêve. Et les contes merveilleux sont réellement des créations, c'est la littérature orale que des femmes ont écrit pendant des décennies et même des siècles. Elles ont vraiment excellé parce que c'était une manière de réellement briser tous les tabous. de sortir de toutes les barrières et d'aller vraiment très très loin dans l'imagination. Donc c'était pas du tout des choses qui étaient vraiment pour brimer ou pour recadrer, mais plutôt pour permettre à l'imagination d'aller le plus loin possible. Parce que c'était la beauté, c'était aussi des histoires parfois d'inceste, parfois de la peur, parce qu'il y a, beaucoup d'histoires d'ogres et d'ogresses. Les ogresses qui sont là pour avaler tout, pour, c'est des histoires d'ondines, de femmes qui sont attirées par des chants de femmes. C'est vraiment un imaginaire qui était là pour moi plutôt, pour aider la femme à supporter un certain enfermement dans lequel elle était, et une manière de... Vraiment, pour moi, c'est un pied de nez aux hommes, parce que c'était... Et en même temps, pour moi, ce qui était intéressant, ce que j'ai compris après, c'est que nous, quand on écoutait la grand-mère qui racontait les contes merveilleux, il y avait les petits garçons. Parce qu'au au départ, les garçons et les filles, tout le monde écoute. Les garçons, à partir d'un certain moment, ils n'écoutent plus la femme, parce qu'ils vont écouter les conteurs professionnels qui sont à l'extérieur, sur les places publiques. Sur les places publiques, il n'y a jamais de femme. C'est un conteur qui raconte à des hommes. Mais qu'est-ce que ce conteur raconte ? Ben, le conteur raconte des épopées, des contes de bravoure, de courage, des choses vraiment pour insuffler à l'homme, aux hommes, leur suffisance et ce qu'ils sont sur le plan, justement, le bon macho, le bon... Et je pense que ce qui fait très, vraiment beaucoup de bien aux enfants... C'est que certains garçons, petits garçons, qui ont écouté les contes merveilleux des femmes, ont gardé quelque chose de ça. Et ce sont justement les hommes qu'on retrouve plus tard, beaucoup plus sensibles, beaucoup plus, pour moi, aptes à écouter et à partager. Donc c'était vraiment deux choses complètement différentes. Et les femmes se transmettaient les contes, et on avait déjà à l'époque les versions que nous avons aujourd'hui, parce que de temps en temps c'était, oui mais une telle raconte ce conte-là mais il ne se termine pas du tout comme ça. On dit, oui mais si, mais moi c'est ma grand-mère qui l'avait raconté ainsi. Et ça, c'était une espèce d'émulation qui permettait aussi à ceux qui racontaient bien, parce que bien sûr on n'allait que vers celles qui racontaient bien. Tout le monde essayait, mais on savait très bien parce qu'on disait, on va aller voir une telle comme elle raconte bien. Et c'était ça le critère, donc toujours. D'un autre côté, par rapport cette question de conte éducatif, moi, mon père racontait beaucoup. Mon père nous racontait des histoires de Joha. Joha, c'est le fameux Nasreddin qu'on entend partout ici. Parce que Joha, c'est le personnage du fou sage qu'on trouve dans tout le bassin méditerranéen et qui change de nom selon les cultures. Chez nous, c'est Joha. Dans tout le Maghreb, c'est Joha. Quand on va vers le Liban, vers l'Irak, il devient Nasreddin. En Turquie, il est Hoxha. Et même en Sicile, c'est Djoufa. J'ai des amis siciliens, on raconte exactement les mêmes histoires. Joha, ce n'était jamais la grand-mère qui racontait. Ce n'était pas ma mère qui racontait, c'était mon père. Et c'était là où, justement, le conte éducatif était important. Mon père nous racontait les contes de Joha toujours par rapport à une situation donnée. Hier, je ne sais pas à qui, je disais que mon père nous disait « Joha, un jour, on lui a demandé où est ton oreille ?» Et Joha a pris son bras, il a fait le tour de sa tête, il a touché, avec sa main droite, il a touché son oreille gauche. Et mon père nous dit « Mais elle est où c'est quoi le souci ici ?» Alors, enfin, on disait « Mais on ne sait pas. » Mais il aurait dû toucher avec sa main droite son oreille droite. Parce que c'est le plus court chemin. Il a dû le raconter 3-4 fois. Après, quand on se mettait dans des choses compliquées, mon père ne racontait plus l'histoire. Il disait, elle est où ton oreille ? Et ça nous ramenait tout de suite à, ça veut dire que j'ai été dans un truc très compliqué alors que j'avais une manière plus simple de le faire.
C'est excellent.
C'était l'histoire de Joha et son âne, par exemple. C'était à chaque fois pour nous, par rapport à une situation donnée. Mon père a toujours, toujours raconté les histoires de Joha dans cette optique-là. Donc voilà, c'est pour moi les...
On apprend vite avec les images, les symboles.
Ah bah oui, et puis après, c'était à chaque fois juste... On ne raconte plus tout le conte dans sa totalité, mais juste un bout du conte. C'est comme par exemple celui qui est très têtu. On dit, même si ça vole, c'est une chèvre. Pourquoi ? Parce que ce sont Jha et son ami, ils se promènent, il y a une colline, et ils voient une forme. Et l'ami dit, tu as vu le rapace ? Et Joha dit, mais non, c'est pas un rapace, c'est une chèvre. On dit, mais c'est une rapace, hein, une chèvre. Et puis, le rapace, parce que c'était un oiseau, il prend son envol. Et l'autre dit, mais tu as vu, c'est bien, c'était bien un oiseau. Et l'autre dit, mais non, même si ça vole, pour moi, ça reste une chèvre. Donc, quand on quelqu'un de têtu, on dit, mais même si ça vole, c'est une chèvre. Donc, on ne va pas raconter toute l'histoire. Et pour moi, c'est le conte éducatif, il est vraiment et ça. Oui. Et c'était pas l'affaire de ma grand-mère, c'était l'affaire de mon père.
Mais j'adore vous écouter, voilà. C'est... D'entrée, je sens qu'on va passer une heure magnifique. J'adore ces petits... C'est vrai que c'est important, ces raccourcis d'histoire qui ramènent à des solutions rapides.
Oui, parce que c'est, quand on raconte une histoire, on arrive à atteindre un but beaucoup plus rapidement que si c'est par la punition ou autre chose. D'ailleurs, on le sait aujourd'hui, tout le monde a compris que pour avoir quelqu'un dans sa poche, il suffit de lui raconter une histoire. Tu sais bien, les jeans, la mode, partout. Maintenant, on nous raconte des histoires parce qu'on sait qu'alléché par l'histoire, on achète.
Alors, vous avez donc été tout de suite dans le bain des contes par les femmes au départ. Et le père. Et, oui. Et après, qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter? Vous dites que vous étiez un petit peu rebelle, vous avez eu envie. Vous avez été mariée très jeune.
Oui.
C'était,
Je me suis mariée à 17 ans, normalement pas vraiment mariée, mais je pense que comme j'étais un peu difficile, et qu'à un moment donné, on m'a demandé en mariage, je dis je veux bien me marier, on m'a mariée.
Ah oui.
Mais après, je voulais plus être dans le mariage, mais on m'a dit non, c'est toi qui as choisi. Donc du coup, j'étais obligée d'y rester. Parce que, surtout qu'à l'époque, chez nous, il n'y avait pas le divorce. Il y avait la répudiation. C'est-à-dire qu'un homme pouvait se séparer d'une femme en lui disant trois fois « je te répudie, je te répudie, je te répudie ». Mais une femme ne pouvait pas. Ce qui fait que moi, je me suis mariée, donc je venais de passer mon bac, j'avais envie de faire des études après. Et mon père, quand je lui ai dit « je ne voulais plus être mariée », il m'a dit « ah non, non, c'est toi qui as choisi ». Donc là, mais chez nous, il n'y a pas de femme divorcée. Ce qui fait que je me dis, bon, ben, c'est-à-dire que je ne peux rien faire. J'étais jeune, tu vois, donc je me dis, oui, c'était pour moi, c'était de l'argent comptant, ben, je ne pouvais pas. Donc, j'ai eu mes deux filles, mais je n'avais qu'une envie, c'était réellement de faire autrement, de faire autre chose. Et j'ai mis 6 ans. J'ai mis 6 ans pour être répudiée. C'est-à-dire que je demandais, et moi, à chaque fois, on me dit non, non, non. Et je suis même allée une fois chez voir un juge, et quand j'ai dit que je voulais le divorce, il m'a vraiment traitée de chienne, il m'a fait sortir.
Ah oui.
Mais aujourd'hui, ça a changé. Mm-hmm. Depuis une dizaine d'années, il y a un nouveau code de la famille et les femmes peuvent demander le divorce. Mais ça, je parle d'il y a 20 ans. Mm-hmm. Voilà. Donc, par rapport au conte, j'étais nourrie par le conte. Je suis venue en France et donc j'ai été rattrapée par le conte. Sauf que j'enseignais à l'université Val d'Essonne, dans la région parisienne. Quand j'ai commencé à raconter, j'enseignais encore. Et puis à un moment, l'appel du conte était très très fort et j'ai abandonné mon poste pour suivre les histoires.
Alors, vous nous avez raconté 2 petits bouts d'histoire très intéressantes sur l'oreille et sur le vautour et la chèvre. Est-ce qu'on pourrait avoir encore une petite histoire avant de faire une petite pause musicale?
Ben, je vais vous raconter une histoire de mon père. Mon père, en dehors des histoires de Joha, il avait plein de petits contes de sagesse. Il dit que c'est un homme qui a 2 fils. Il sent qu'il va bientôt partir. Donc il appelle ses 2 garçons et il dit à chacun d'aller chez un boucher. Il dit à chacun d'entre eux, vous allez me demander... toi à un tel boucher, toi à l'autre, de te donner... Ah non, au premier, il dit, tu lui demandes de te donner la partie la plus noble d'une bête qu'il a sacrifiée ce matin. Il demande à l'autre, tu vas demander au boucher de te donner la partie la plus vile d'une bête qu'il a sacrifiée ce matin. Les 2 garçons partent et ils reviennent chacun avec son paquet. Le père ouvre le premier paquet, il y a une langue de bœuf. Il ouvre le 2e paquet, il y a une langue de bœuf. Les 2 garçons se regardent, ils disent au père, mais quel est le boucher qui s'est trompé? Et le père dit, mais personne ne s'est trompé. La langue, c'est ce qu'il y a de meilleur, mais c'est aussi ce qu'il y a de pire. Une parole peut tuer, une parole peut ressusciter.
Halima Hamdan, merci, c'est magnifique.
Merci à vous.
Voilà, de beaux petits contes.
Merci beaucoup.
Et vous, donc, maintenant, vous écrivez, vous comptez.
Oui.
C'était d'abord le conte oral pour vous et ensuite l'écriture.
Non, j'ai écrit mon premier petit livre de jeunesse sur une reine du Niger avant de compter. Quand je me suis mise à compter, d'ailleurs quand j'ai abandonné mon poste à l'université, c'était parce que je me suis dit je vais pouvoir consacrer mon temps à l'écriture et au conte. Sauf que le conte prend beaucoup beaucoup trop de place. Ce qui fait que depuis que je suis dans le conte, je n'ai pas pu écrire beaucoup. J'ai écrit 2 romans. Et 2 autres albums donc de contes, sachant que pour les contes, je ne voulais pas les écrire. Parce que pour moi, le conte, c'est vraiment l'oralité. Sauf que chaque fois que je raconte quelque part, j'ai toujours quelqu'un qui vient me dire « mais on aimerait tellement pouvoir raconter ces histoires à nos enfants, mais il n'y a pas de livre ». Et ce n'est que depuis 2 ans que j'écris. Donc j'ai écrit Maboul le Sage, qui est un album paru chez Didier Jeunesse, 3 contes que j'ai écrits, mais que je raconte aussi. Donc c'est un livre CD, mais que je raconte comme je raconte d'habitude, c'est-à-dire en mélangeant à la fois la langue française et la langue arabe. Parce que je raconte depuis toujours en mélangeant les 2 langues, parce que les contes, je les avais reçus en arabe, et pour moi, les premiers temps, j'avais l'impression que c'était la langue arabe qui venait vraiment bousculer la langue française. Et à un moment donné, je laissais aller. Là. Quand ça venait en arabe, je disais la phrase ou le mot en arabe. Et quand j'ai commencé à raconter comme ça, tout le monde me disait « mais c'est très bien, parce que du coup, la langue arabe, on a l'impression que c'est beaucoup plus doux que ce qu'on entend. Tiens, ça donne une musicalité. » Et ce qui fait que maintenant, je joue beaucoup avec cette langue, qui est ma langue maternelle, quand je raconte, parce que je suis toujours heureuse de voir que, par exemple, les enfants ou les grands partent avec des mots en arabe, parce qu'ils ont répété les mots quand je raconte. Voilà. Donc, l'écriture. Et puis, j'ai écrit un autre album, qui est un conte traditionnel marocain, qui s'appelle Didane le Rusé, que j'ai écrit simplement par provocation. Parce que les contes marocains traditionnels, on les raconte de moins en moins. Et la télévision ou la radio s'accaparent justement de ce patrimoine oral pour le détourner. Et il y a une série télévisée au Maroc qui s'appelle Didane le Rusé. Sauf que Didane le Rusé, c'était mon conte préféré d'enfant. Et mon conte préféré d'enfant, c'était un gamin qui était très rusé et qui arrive à terrasser des ogresses. Et chez nous, il y a beaucoup d'histoires avec les ogresses. Et j'ai des éditeurs marocains qui m'ont demandé et qui me demandent toujours d'écrire des contes. Et j'ai dit à une éditrice, moi je veux bien, si je peux écrire ce conte-là, pour que les enfants marocains puissent se dire, ah tiens, ça c'est le même titre que le feuilleton, mais quand ils vont lire l'histoire, ils vont découvrir un conte merveilleux. D'ailleurs, c'est un conte qui a eu un prix au Maroc, il a pris le prix du Grand Atlas cette année.
Bravo. Bravo, merci. Bravo. Donc, on peut trouver maintenant des livres CD
Il y a un livre CD et un album qui sont tous les deux distribués ici. Ça, c'est pour la littérature jeunesse. Sinon, j'ai écrit aussi 2 romans.
Alors, est-ce qu'on fait une pause musicale avec de la musique que vous avez choisie, je vais y arriver.
C'est Flyer, c'est un groupe, c'est la musique traditionnelle revisitée, j'aime beaucoup ça. Alors, merci d'ailleurs de me faire plaisir.
C'est un plaisir.
Merci.
كتري من حنة والمحنة وشدي في ديا راني بلادي كوالي عاش تكون محكورة وهي أم ولادي. حق المرأة كاين في الدين وحنا يعليها غفلين. المرأة قرات وعاد خدمات بغات حقوقها كاملين. ما توفي المرأة يا الراجل واحد من مليون. شحال حملت ولدت رضعت كبرت علامة ونزول. بيتي الحق لك بوحدك حق المرأة عندك مهضومة. وبحر التنمية ماشي في بوحدك غادي تعوم.
لا لا منانا ماجي تكوني بنتي وندير لك حمالة من الخخور رمانة. لا لا منانا ماجي تكوني بنتي والسقية تسقينا والواد ما يدينا. لا لا منانا ماجي تكوني بنتي وندير لك حمالة من الخخور رمانة. لا لا منانا ماجي تكوني بنتي نعيد الموت وانا ونعيش جنات هنا. شانك انا ويا امي ويا اختي ورهدة وحلي
retrouve sur notre antenne de Fréquence Mistral notre invitée conteuse écrivaine Halima Hamdan, née au Maroc. On a vu déjà un tout petit bout des contes magnifiques que vous pouvez compter. Vous parliez d'alphabétisation aussi. Vous faites un travail dans le cadre d'un programme d'alphabétisation.
Mais c'est-à-dire, oui, pardon, oui. Je vous coupe la parole.
Allez-y.
Oui, parce que on parlait d'alphabétisation et de lecture. C'est vrai qu'il y a un souci de lecture ici, parce qu'on se dit que les enfants ne lisent pas assez. Et chez nous, il y a aussi ce problème de lecture, mais il y a aussi un problème d'alphabétisation, parce que nous avons malheureusement encore un taux très important d'analphabètes, de jeunes qui n'ont jamais été à l'école, qui ne peuvent même pas écrire leur nom. Et le fait de venir avec un moment, c'était pour moi, arriver avec le conte, c'est faire une sensibilisation qui permettait en même temps d'aller vers l'écriture ou vers la lecture. C'est ce qui pourrait vraiment sauver pour moi toute une génération, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on sort des grandes villes, dans les campagnes, les filles ne vont pas à l'école. Et même quand ils vont à l'école, parfois dans des contrées très éloignées des grandes villes, on va par exemple laisser les filles aller à l'école jusqu'au CM2. Et après, pour le collège, il est dans la ville d'à côté. Donc on va laisser partir les garçons, mais on ne va pas laisser partir les filles. Comme exemple, je peux citer des associations qui sont à Marrakech qui est aujourd'hui pratiquement un autre Paris. Tout le monde se bouscule pour aller à Marrakech parce qu'il y a tout. Mais à quelques kilomètres de Marrakech, il y a plein de petits villages où les filles, à partir du CM2, ne peuvent plus aller à l'école. J'ai une amie qui a une maison comme ça dans la campagne. Elle me dit qu'elle, à un moment, était intriguée parce qu'elle avait plein de filles de 12 ans, 13 ans qui venaient souvent frapper à sa porte pour lui demander si elle ne cherchait pas une bonne à tout faire. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois, j'ai des petites gamines qui viennent me demander de travail? Et elle a posé des questions. On dit, oui, ce sont les filles qui, à partir de CM2, ne peuvent plus aller à l'école parce que les parents s'arrangent. Ils louent des appartements à Marrakech et ils mettent 10 gamins, 8 gamins avec une personne qui s'occupe d'eux. Mais ils ne peuvent pas faire la même chose pour les filles parce que les filles, l'honneur, tous les problèmes, les tabous. Donc, du coup, les filles, elles restent désœuvrées. Et puis, quand elles veulent avoir un peu d'argent, ben, la seule chose qu'elle peut faire, c'est d'aller travailler comme bonne à tout faire dans les familles. Elle a eu l'idée de monter une association et de demander d'ailleurs à la ville un terrain. Elle a pu construire un foyer pour les jeunes filles et ça fait une dizaine d'années. Elle a tout le, elle a, je pense, 180 filles. Et la première fille qui a eu sa licence de cette promotion, c'était l'année dernière. Donc des filles qui viennent du, de, des villages voisins. Et bon, elle peut pas prendre tout le monde, mais elle prend par rapport à la moyenne. Parce qu'elle dit, c'est pas par rapport au niveau social, mais toutes les filles du village, à partir du moment où elles ont 12, 13 de moyenne, elles pouvaient les prendre. Parce que sinon, le niveau était trop faible, elles ne pouvaient pas. Et il y a beaucoup de, d'enseignants, d'artistes qui collaborent avec cette association pour donner des cours de manière bénévole. Et moi, par exemple, avec ces filles, quand je vais à Marrakech, je travaille avec elles à partir du compte. Parce qu'elles ont beaucoup de problèmes avec la langue française. Et le fait de, d'arriver avec un compte très simple, que je raconte en français, j'explique aussi en arabe, et après, elles peuvent le raconter, re-raconter, essayer de mettre à chaque fois, on enrichit avec des adjectifs, on change les verbes pour mettre d'autres verbes, et ça marche parce que, à la fin des séances, elles ont réellement un vocabulaire nouveau, elles ont aussi acquis des structures. Alors que quand c'est une leçon de grammaire, parfois, ça ne rentre pas. Donc pour moi, le conte, à ce niveau-là, peut réellement être un très bon allié.
Vous comptez, vous écrivez. Est-ce qu'il y a une préférence pour l'un ou pour l'autre, ou ça va ensemble ?
Vous connaissez cette histoire de l'Africain à qui on dit « Tu as combien d'enfants ?»« Bah, j'en ai plusieurs. »« Mais quel est le préféré de tes enfants ?» L'homme répond « Le préféré de mes enfants, c'est le malade. » Jusqu'à ce qu'il guérisse. Celui qui est en voyage, jusqu'à ce qu'il revienne. Le petit, jusqu'à ce qu'il grandisse. Comme quoi, on ne peut pas avoir de préférence. Donc pour moi, les livres, les contes, ce sont... Je ne peux pas dire si je préfère écrire ou compter. Parce que quand je raconte, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui se passe avec le corps. Réellement. C'est comme si le conte, tout à coup, si on est habité par le conte. Les premiers temps, je disais que je sentais la présence de ma grand-mère. Que c'est comme si elle était là et qui... parce qu'il y a des moments où, quand je compte, il y a des choses qui se passent, je peux n'avoir aucune conscience des petites choses qui peuvent... s'il y a un truc dans le public, parce que c'est vraiment l'histoire. On est porté par l'histoire et... on donne, mais parce qu'on reçoit aussi beaucoup. Parce que le fait de voir quand les gens sont là et qu'ils sont vraiment dans l'histoire... C'est un bonheur incroyable. Maintenant, quand on écrit, c'est autre chose. C'est parce qu'on est seul, on est devant une feuille blanche. Mais là aussi, on est dans une liberté parce qu'on peut écrire tout ce qu'on veut. N'est-ce pas, Madame Belleuil, vous qui
absolument,
écrivez.
Madame Hamdan.
Donc, c'est un autre plaisir. C'est un plaisir qui peut aussi parfois être très... se transformer en souffrance. Parce que moi, je me rends compte que j'écris aussi par rapport à des choses vécues, par rapport à des choses difficiles. Souvent, on me dit « Ah, mais on a lu Le Chaos de la Liberté et j'ai beaucoup pleuré. » Moi, je dis « Je ne veux pas faire pleurer les gens, mais je veux vraiment qu'ils rentrent dans une histoire et qu'ils soient... » Mais on écrit aussi à partir d'un autre point qui n'est pas celui à partir duquel on raconte. Tu peux me dire ce que tu penses de cette histoire. Donc pour moi, ce sont deux endroits différents. Parce que le conte, pour moi, c'est pas quelque chose de léger. C'est pas anodin. Mm-hmm. C'est fort et ça me parle et ça me traverse. Ça peut me bouleverser. Il y a des contes marocains, par exemple, qu'à un moment donné, j'arrivais pas. Je voulais raconter, mais je n'arrivais pas. J'arrive pas, et j'ai essayé d'expliquer, mais pourquoi? Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dépasse, je n'arrive pas. L'écriture, c'est aussi, ça part de quelque chose qui est à la fois ce qu'on est, ce qu'on a été, ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé, et qui, à un moment donné, veut vivre comme le conte veut venir à la bouche. Et là, c'est sous les doigts, là, on écrit avec l'Internet. Mais... ça bouleverse autre chose. Mais dans tous les cas, pour moi, on est dans la créativité, mais aussi dans l'émotion. Parce que je ne dirais même pas... Par exemple, quand le conte, moi, je ne raconte que des choses qu'on m'a transmises. Mm-hmm. Je me dis, je suis passeuse. Je veux être dans la transmission, mais en même temps, le conte que je donne, même que si je l'ai reçu de ma grand-mère me l'a donné avec ses mots, avec ce qu'elle est, en arabe. Et moi, quand le fait de le sortir de l'arabe pour le mettre en français, il subit déjà
des transformations.
Ce qui fait que ça bouleverse, on crée, on recrée, mais dans l'écriture, je ne sais pas. Je me suis perdue un peu dans ce que je raconte. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre.
Mais l'écriture, me semble-t-il, l'écriture a force à voir avec le corps aussi. Moi, je dis qu'on
est,
c'est l'écriture du corps, parce que quelque part, tu relis des textes que tu as écrits il y a quelque temps et tu n'as aucune conscience d'avoir écrit ces textes-là.
Ah, je suis d'accord.
Ça vient bien.
Ça vient de très loin aussi. Ça, c'est sûr. Il y a des choses. Toi, tu as fait cette expérience. On écrit, puis il y a quelque chose qui naît et on ne sait pas d'où elle vient.
On ne sait pas d'où elle vient. De même que les personnages, ils naissent à l'insu de ton plein gré.
Exactement. Ça, c'est grave. C'est vraiment ça. C'est à l'insu de mon plein gré. J'aime beaucoup ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Oui, par rapport au choix, je demandais qu'est-ce qui était préférable, l'écriture, le conte.
Oui. C'est difficile de faire un choix parce que je pense que je me sens un peu... j'ai une petite frustration par rapport à l'écriture parce que je trouve que je donne beaucoup plus de temps au conte. Parce que le conte me permet aussi autre chose... Beaucoup d'échanges, beaucoup de voyages. Et l'écriture, moi, je pense que je ne peux pas écrire n'importe où. Et c'est ça le problème qui est mon problème. Moi, je n'écris pas n'importe où. Et je devrais pouvoir écrire là où je suis. Par rapport, c'est quand j'ai un roman, de pouvoir le continuer. Mais quand je suis quelque part, je suis comme un enfant. J'ai envie de découvrir, de vivre l'instant, d'être là. Et donc, du coup, je ne peux pas écrire.
Alors, j'ai envie quand même d'aller voir un petit peu, on a parlé donc d'Idane le Rusé, c'est ça?
Oui.
Le premier conte que vous avez écrit.
C'est le deuxième après Ma boule de sage.
Et ensuite, Le chaos de la liberté.
Le chaos de la liberté, c'est un roman.
C'est un roman.
Oui.
Dont vous aviez envie de nous lire un petit extrait.
Un tout petit.
Voilà.
Dans cette nuit qui s'épaissit, une part d'elle-même réclame un abri, des bras. Une odeur, une présence. Elle donnerait ses larmes à boire, sa peau à labourer, ses lèvres à mordre. Elle s'ouvrirait à une virilité qui la ressusciterait. Mais sa peine vorace engloutit tout, ni visage, ni corps, pas même quelques misérables effluves comme refuge. Ses souvenirs se dérobent, refusent de livrer leurs trésors. Les images sont floues, les visages étranges. Et les sens absents. Elle s'obstine à fouiller en vain. La douleur qui l'habite occupe toute la place.
Merci.
C'est dans le livre. C'est dans le livre qui est Le chaos de la liberté, qui raconte l'histoire d'une femme. La quatrième de couverture dit plutôt que c'est une femme...
qui se penche sur son passé, c'est ça, pour comprendre son présent douloureux.
Voilà.
Elle ne cherche rien d'autre que d'échapper à la souffrance, écrivant « Elle entre dans sa vie comme elle ne l'a jamais vue. Son récit n'est plus narration, mais retour sur soi. Et dans ce retour sur soi, l'écriture agit comme une révélation. »
Voilà. Donc j'ai eu l'immense plaisir d'avoir une préface de Jean-Marie Le Clézio pour ce roman.
Ben oui, il y a de quoi être fière. Et puis, il y a eu aussi « Laissez-moi parler ». J'aime beaucoup le titre. C'est un roman aussi.
Oui, c'est aussi un roman. Et ce « Laissez-moi parler », souvent on me dit « Ah, mais on va te laisser parler ». Sauf que « Laissez-moi parler », c'est l'histoire d'une femme esclave. Une femme esclave qui ne l'était plus au moment où s'écrit le livre, au moment où je veux raconter cette histoire. C'est une femme que j'ai côtoyée. Je suis partie d'une femme que j'ai côtoyée, qui était amie de ma mère et qui avait été esclave. Et quand elle venait chez nous, elle racontait toujours des choses fabuleuses. Et les femmes chez nous, quand elles sont ensemble, c'est toujours le cas, tout le monde parle. Tout le monde parle et on s'écoute très peu. Ben oui, Madame Belleuil. On ne s'écoute plus, on ne s'écoute pas beaucoup. Et cette femme, qui était absolument incroyable, dès que tout le monde parlait, elle tapait dans ses mains, elle disait « Khallouni nahdar », qui veut dire « Laissez-moi parler ». Et c'était souvent pour réajuster la conversation, pour apporter quelque chose de plus juste. Et quand elle est morte, j'avais envie d'écrire son histoire. D'écrire son histoire parce qu'elle me l'avait raconté. Elle m'avait raconté son enfance. Elle avait été volée, enfant, et élevée dans une famille de notables à Fès. Ce qui s'est passé pour elle était comme un conte de fées, mais très bizarre. C'est que le fils de la famille est tombé amoureux d'elle. Et quand on l'a mariée, parce qu'à l'époque, c'était des mariages qui étaient arrangés entre les familles, dans cette famille, il y avait beaucoup d'esclaves. Et dans la tradition, quand un fils se mariait, le père pouvait lui offrir une de ses esclaves pour qu'elle entretienne son foyer. Et dans ce cas-là, donc le père marie son fils et lui dit je te fais don de telle esclave, elle va s'occuper de ton foyer, donc elle va s'occuper de la maison, de la cuisine et des enfants à venir. Et le fils se rebelle et il dit mais moi, c'est pas elle que je veux, c'est l'autre que je veux. Donc le scandale et tout, mais la famille a fini par la laisser partir. Et comme il était amoureux d'elle, ben il l'épouse. Et j'avais envie de raconter parce qu'elle m'avait dit, elle racontait des choses absolument incroyables. Elle racontait très bien. Et elle me disait que c'était au moment c'était le protectorat français. Dans cette famille qui était, où il y avait beaucoup d'esclaves, elle me disait que par exemple, elle repassait de manière incroyable. Avec les plis, les choses comme ça. Et à un moment donné, je dis, mais jamais je n'ai vu quelqu'un repasser comme toi. Elle me dit, oui, mais toi, tu n'es pas passé par mon parcours. Parce que dans la famille où elle était, elle m'avait dit que c'était des sœurs, des religieuses, qui venaient dans la famille et qui lui ont appris à repasser. Mais elle me racontait des anecdotes, des choses absolument incroyables. Et j'avais envie de raconter ça. Et sauf que quand j'ai commencé à écrire, toutes les femmes sont arrivées. Mais vraiment, c'était un soir, j'étais envahie, mais vraiment, toutes les femmes étaient là, et moi, parce que je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais vue réellement seule. Je l'avais toujours vue entourée des autres femmes. Et c'est toujours les femmes qui racontaient leur malheur, qui racontaient leur vie, et elles qui, de temps en temps, se levaient, laissez-moi parler, et qui disaient à l'une, voilà ce que tu veux, voilà comment tu te comportes. Vraiment, c'était une nuit où j'ai dû écrire pratiquement toute la nuit parce que tout à coup, les femmes sont arrivées. Et puis je disais, d'accord. Et son histoire est devenue mon histoire cadre. Et il y a eu la place pour les femmes qui sont arrivées. Bien sûr, ce n'est pas des récits que j'ai écrits comme ils sont arrivés parce que je me suis rendu compte après que c'est aussi une mémoire ancienne. Dans chaque portrait de femme, il y avait 4 ou 5 vies de femmes que j'ai côtoyées. Donc, il y a eu une mosaïque, ça a été tricoté autrement. Et donc, quand je l'ai donné à mon éditeur, j'avais envie d'un titre qui la mette, elle, en avant, même s'il y a toutes ces femmes. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes dans ce roman. Et il me dit, mais qu'est-ce qui revient dans ce roman? Je dis, mais elle dit tout le temps, laissez-moi parler. Elle me dit, voilà, nous avons trouvé le titre. Donc, voilà, c'est comme ça que le titre est venu. Sachant que ce roman, je le raconte aussi. Mais je raconte parce qu'on m'a demandé de le monter, d'en faire une adaptation théâtrale. Et là, elle est revenue à la charge, cette femme. Parce que quand j'ai commencé à faire l'adaptation, entre-temps, j'ai su que j'avais aussi dans ma famille, il y avait un secret de famille, c'est une arrière-grand-mère qui était esclave, qui était éthiopienne. Et je l'ai su après avoir écrit le livre. C'est mon père, je lui ai raconté mon roman, qui me dit « Ah, tu racontes l'histoire de ma grand-mère ». Donc c'était le secret de famille. Et quand on m'a fait demander de faire l'adaptation, j'ai compris qu'en fait, cette femme et mon arrière-grand-mère, ça faisait quelque chose. Et pour l'adaptation, je raconte en utilisant le jeu, parce que pour moi, cette femme, mon arrière-grand-mère, moi, c'est la même personne. Et donc sur scène, je raconte et c'est « je ». Et c'est quelque chose qui, pour moi, me colle à la peau. Et j'ai des amis, parce que je dis à un moment donné, je suis née libre, mais c'est la couleur de ma peau qui m'a condamnée à la servitude. Et je tape sur ma peau. Il y a une amie camerounaise, elle me dit, mais tu sais, on te voyait sur scène, tu étais une femme noire. C'était tellement habité. Et je suis... Et l'écriture, pour moi, c'est là où, justement, par rapport au conte, l'écriture, elle permet, pour moi, ces deux amours me permettent aussi d'être quelque part, de se donner la main. Parce que pour moi, si je n'avais pas été dans le conte, jamais je n'aurais pu faire cette adaptation et surtout porter cette parole. Parce que pour moi, c'est une parole de femme, une parole forte.
Voilà. J'entends bien cette belle parole de femme. J'ai bien sûr envie de vous demander comment vous vivez ces rencontres de la parole à Digne, à La Robine-sur-Galabre. Et vous allez compter dès demain, d'ailleurs,
oui,
à Saint-Étienne-les-Orgues, c'est ça ?
Dès demain à Saint-Étienne-les-Orgues.
Voilà,
tout à fait,
à 21h.
21h devant la médiathèque.
Alors, qu'est-ce que vous allez compter demain ?
Je veux d'abord parler du festival.
Oui.
Moi, je dirais que c'est que du bonheur. Que du bonheur, pas parce que Madame Belleuil est là, pas du tout, mais par rapport à, je trouve que les festivals de contes, c'est aussi des moments forts de rencontre, mais en même temps, celui qui organise pour les conter, il choisit des conteurs. Il y a des moments où il y a des ratés. Parce que, comme tous les êtres humains, il y a parfois des animosités, des jalousies, des choses. Parfois, la mayonnaise ne prend pas. Et là, je le dis, ce n'est pas parce que Madame Belleuil est là. C'est vraiment très, très sympathique, très confortable. Il y a une complicité qui s'est installée. Et je pense qu'on va le voir pour la soirée de clôture où nous allons tous être ensemble.
Participer, travailler tous les matins.
Mais en même temps, je trouve que ce qu'on ne voit pas dans les autres festivals, c'est que là, tous les soirs, il n'y a que deux spectacles. Et nous allons écouter les uns les autres. Parfois, on passe 15 jours sur un festival et on n'a pas la possibilité d'aller écouter les autres. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui permet réellement de souder des liens. Et tout ça, c'est pour faire du bien au conte. Parce que je pense que mieux on se comprend les uns les autres, mieux on sert le conte. Et pour ça, merci beaucoup, Madame Belleuil.
Mais je suis à la disposition du conte, madame.
C'est ce que j'ai compris. Et non, ça se ressent, et ça se voit, et ça s'entend. Merci
c'est
beaucoup.
Un bonheur.
Alors, vous préparez donc tous les matins pour le spectacle final de clôture. Et demain, donc, vous allez enfin exprimer votre talent devant les collègues conteurs, en fait.
Demain, c'est
une soirée normale. Mais oui, en fait, chacun est un peu disséminé, mais ils se voient les uns les autres travailler.
Parce que chaque jour, les compteurs qui ne comptent pas et que par malice, j'appelle les compteurs contents et les compteurs non contents. Donc, les compteurs non contents vont écouter les compteurs contents et se répartissent sur les deux lieux de raconter. Quoi, voilà.
C'est-à-dire que demain, je serai contente.
Contente.
Les non contents viendront m'écouter, mais ce soir, moi, je suis non contente. Donc, j'irai écouter Claude Delsol.
Donc, pour vous, c'est une belle aventure que de ce partage entre conteurs. Vous avez l'habitude de participer à des festivals ?
Oui, totalement, j'ai l'habitude. Mais les festivals se succèdent et ne se ressemblent pas. Je trouve que chaque festival a une particularité et c'est pour ça que je souligne la particularité de ce festival qui laisse vraiment une très grande liberté, une grande part d'abord à la créativité des conteurs mais aussi à la créativité tout court parce que là nous sommes comment on dit. Nous devons faire une création et souvent on n'a pas le temps. Parce qu'on fait toujours, pour la clôture, souvent, c'est quelques heures avant, on était faites quelque chose ensemble. Alors que là, nous avons le temps, c'est tous les matins. On se retrouve dans une salle de travail et nous travaillons à créer un spectacle qui va être unique, qui n'aura lieu qu'une seule fois. Et moi, j'adore les choses comme ça. On est dans l'éphémère, on est dans justement... Et c'est ça, c'est la parole. La parole, elle ne s'envole pas, elle reste. Parce que ceux qui vont nous écouter vont partir avec des paroles multiples et ils vont vouloir et continuer à aller écouter d'autres conteurs parce que je pense que la force, elle est là. Et ça, c'est réellement... C'est la première fois où je vis ça dans un festival. Et j'en ai fait des festivals.
Merci, madame.
J'ai envie qu'on se quitte peut-être avec encore un petit morceau de conte, c'est possible, et si possible en mélangeant votre langue avec le français.
Ben dans ce cas, je vais peut-être juste vous dire comment on commence des contes et comment on les finit chez nous.
Oui.
Alors ma grand-mère, ça c'est une formule de ma grand-mère que je la dis moi régulièrement, mais même au Maroc, on me dit qu'on ne la connaît pas vraiment beaucoup. Mais peut-être que parce que ma grand-mère venait de la campagne, d'une campagne où c'était comme ça. Ma grand-mère, quand elle racontait, elle disait ceci. « كان يا مكان حتى كان حتى كان الحبق والسوسان في كل مكان حتى كان العمى يخيط الكتان وحتى كان الزحاف ينقز الحيطان وحتى كان الطرش يجيب الخبار من مكان لمكان من كيطيح الندى كان كيسمع. » Ça veut dire Il était une fois, il y avait partout à la fois du lys et du basilic. Et nos histoires datent du temps où l'aveugle faisait de la couture. Nos histoires datent du temps où celui qui n'avait pas de jambes sautait par-dessus les haies. Et nos histoires datent du temps où le sourd attrapait les histoires les plus lointaines parce que lui, quand la rose est tombée, il l'entendait.
Magnifique.
Et pour moi, je vous assure que quand j'étais enfant, je m'arrêtais à la formule. Ça me travaillait. Parce que je me disais, mais comment l'aveugle pouvait faire de la couture, et comment celui qui n'avait pas de jambes pouvait sauter. C'était vraiment, et j'ai compris après que c'était le meilleur moyen pour embarquer quelqu'un dans l'imaginaire. Parce que déjà, ça y est, tout est là. Ça y est, il faut qu'il croie tout ce qu'on va lui raconter. Mais ma grand-mère, elle le disait comme ça, elle était analphabète, elle n'a jamais été à l'école, c'est ce qu'on lui avait transmis. Et longtemps après, quand je me suis remémoré les moments du conte, je me rappelais des moments où j'étais vraiment dans mon coin à me dire « Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible ?» C'est incroyable. Et pour finir les contes, il y a plusieurs manières. Comme pour commencer aussi, on dit aussi « Taq tatlaq »« Taq tatlaq »« L'hawli mchoui al l'ouraq »« Nakul ana wunta wunta oudak oudak »« Ou l'mahsad yibqa hakdak »« Ma ando walou »« Taq tatlaq » C'est juste une onomatopée, si on peut dire. Mm-hmm. Mon conte est un méchoui que je vous présente sur un lit de feuilles. J'en mange un peu, je vous en donne à vous, même à ceux qui sont loin, sauf aux jaloux. Eux, ils n'auront rien du tout. Walou. Et pour clôturer un conte, le plus fréquent, on dit « Hkaïti mchat ma l'ouad l'ouad, wana bqit ma l'jouad ». Mon conte va avec l'eau de la rivière et moi je reste avec vous. Et mon préféré c'est حكايتي حلوة درتها في فمي بقات تدوب تدوب وكلامي كله كذوب. Mon conte est un bonbon que j'ai mis en bouche pendant que je vous raconte, mais il n'a pas arrêté de fondre. Mais peut-être que ce que j'ai raconté n'est que mensonge. Et je termine en disant que les conteurs sont des menteurs qui disent toujours la vérité.
Bravo,
merci Halima beaucoup, Hamdan.
Merci beaucoup pour ces cadeaux.
Merci vraiment, à vous, c'était un vrai plaisir de partager bon moment, ce moment avec vous.
Un bon merci moment beaucoup. De vous rencontrer et de vous découvrir. Et je serai ravie de réécouter cette émission pour avoir encore...
merci infiniment à vous, merci... au conseil
départemental, de cette belle organisation,
voilà. Qui continue à honorer cette parole qui vient d'ici et d'ailleurs et dont nous avons besoin aujourd'hui plus qu'avant, j'ai l'impression.
Et donc pour ceux qui peuvent venir vous voir, on répète, c'est demain à Saint-Étienne-les-Orgues. À quel endroit de Saint-Étienne?
Devant la médiathèque. Et mardi, à la Palue sur Verdon. Mardi 25, à la Palue sur Verdon. Alors, à la Palue sur Verdon, c'est sur la terrasse du château.
Et puis, pour ceux qui nous écoutent encore, venez, venez, venez partager ce moment.
Oui, Agio, Agio.
Encore, comment
dire ? Agio.
Agio.
Agio, c'est venez. Agio, t'sm'ou, agio, chouffou l'hkayat.
Venez dimanche à partir de 11h30, midi, partager.
Nahar l'hadd ma'a l'hadash.
À partir de midi et demi ou 11h30.
Ou la tmash, tmash voilà.
Pour partager un apéritif qui sera offert ou pas ?
Oui,
par le conseil départemental. Et puis, après, chacun partage son pique-nique. Et puis, surtout, ce plaisir de rencontrer toute l'équipe des compteurs et où le public lambda pourra
le
venir aussi raconter, compter.
Tout à fait. La parole amateur est bienvenue. Et la musique amateur aussi. Et la musique professionnelle aussi. Enfin, c'est vraiment... C'est vraiment le point à la fois de respiration, de repos et de partage un peu plus fort des rencontres de la parole.
Voilà. Merci.
Merci et à puis... vous, Choukran.
et ce soir, en revanche,
oui, il y a
ce
aussi...
soir, il y a une soirée à Allemagne en Provence et une soirée à Prats. Voilà.
Avec qui ?
Alors, Prats, c'est Patrick Ewen. Et Allemagne en Provence, c'est donc Claude Delsol. Et vous vous rappelez que chacun des conteurs est accompagné enfin, d'un musicien. Donc Rénal Fleury pour Patrick Ewen et Nasser Soltani pour Claude Delsol.
Et on rappelle aussi que Rénal Fleury sera notre invité sur Fréquence Mistral lundi matin de 9h15 à 10h. Normalement.
Absolument.
Si jamais il y a un changement.
Non.
On tient
aucun changement.
Il y a des drôles de yeux. Allez.
Des drôles de yeux pour bel oeil, c'est normal.
Oui. Bonne soirée à tous. Et merci encore à toutes les deux d'être venues sur notre antenne. On écoute presque oui. C'est Thibaut Defever qui chante Rossignol. Au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
J'ai l'air d'un con avec ma vie. J'ai l'air d'un con avec ma flûte, mes laborieuses mélopées. Inutile que je lutte, ce volatile a du métier. Planqué là-haut dans les branchages, cet emplumé fait l'étalage de ses talents de rossignol quand je reste cloué au sol. Mon pipeau ne fait pas le poids, ce passereau donne dans le velours. Mes triples croches tombent à plat, quand lui pétille, moi je laboure. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Chante, rossignol, chante, tant que je te laisse chanter. Les filles devaient se déhancher, se dévêtir et s'enivrer. Au son moelleux de mon roseau, elles n'ont Dieu que pour ce moineau. Je voudrais tant plagier ce piaf, sans état d'âme assimilé. Ces pépinements de surdoués, mais là j'ai l'oreille en carafe. Pas moyen que je mémorise, ne serait-ce qu'une de ces vocalises. Cet enfoiré de virtuose fait jamais deux fois la même chose. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Chante, rossignol, chante, tant que je te laisse chanter. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Chante, rossignol, chante, tant que je te laisse chanter. Je devrais pas être jaloux. Je devrais m'asseoir les yeux fermés, savourer sans arrière-pensée les arabesques du coucou. Au lieu de ça, des idées folles germent dans mon cerveau malade. Le petit Mozart à la casserole, l'oiseau prodige en tapenade. Si, il paraît que les anthropophages, en bouffant l'autre, s'approprient son cœur, son talent, son courage. Petit, 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 petit. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Chante, rossignol, chante, tant que je te laisse chanter. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Chante, rossignol, chante, tant que je te laisse chanter. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Chante, rossignol, chante, tant que je te laisse chanter. Allez, chante.